Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. Voilà sans aucun doute la campagne présidentielle la plus surprenante, la plus tumultueuse, la plus préoccupante aussi de l'histoire contemporaine des États-Unis. La ronde des primaires se termine, il n'en reste qu'une mardi prochain dans la capitale fédérale, mais elle est symbolique. Les jeux sont donc faits, Donald Trump sera bien le candidat du Parti républicain, on le sait depuis 3 semaines maintenant, un parti dont il n'est pas membre depuis longtemps et dont il contredit la plupart des dogmes. L'élite républicaine n'arrive pas à s'y faire et frémit à chaque embardée verbale du roi de la télé-réalité. Hillary Clinton sera bien la candidate du Parti démocrate, la candidate présomptive, insiste Bernie Sanders, qui a mené contre elle un combat acharné et qui promet la castagne jusqu'à la convention de Philadelphie fin juillet. Il n'empêche, le vrai duel a commencé et il sera sanglant jusqu'à l'élection du 8 novembre prochain. Où en sont donc aujourd'hui les sondages? Hillary Clinton a été accusée d'avoir fait une mauvaise campagne. Pourquoi? Peut-elle améliorer sa performance et récupérer en particulier la jeune génération qui s'est enflammée pour Bernie? Donald Trump, lui, a défait ses rivaux républicains au bazooka en démolissant tous les codes traditionnels du comportement politique. Son tempérament et ses méthodes vont-ils peser sur les 5 mois à venir? Et surtout, quelles sont les tendances lourdes qui traversent la société américaine? Ce sont tous ces aspects que nous allons examiner grâce à vous. Marc Lila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en humanité, humanities, comme on dit chez vous, à l'Université Columbia de New York, et vous écrivez régulièrement dans la New York Review of Books. Pap Ndiaye, historien, professeur des universités à Sciences Po Paris et directeur du département d'histoire. Avec nous aussi Jean-Éric Brana, politologue, maître de conférences à l'université de Paris 2 à Sas. Et au téléphone depuis New York, je l'en remercie, Donald Green, professeur en sciences politiques à l'université Columbia et spécialiste des sondages. Marc Lila, je commence avec vous. Parce que vous avez vécu, étant New-Yorkais de plus près que nous, un an déjà depuis l'annonce des diverses candidatures. Quand on remonte le fil de l'histoire et qu'on relit tout ce qui a été écrit, toutes les analyses des meilleurs commentateurs, les pundits, comme on dit chez vous, ils se sont tous trompés sur tout. Comment expliquez-vous que cette campagne ait pris une telle allure ?
Ce qui m'intéresse maintenant, en fait, c'est pas le phénomène Trump, mais plutôt les interprétations du phénomène. Et il y a 3 interprétations courantes aux États-Unis du phénomène. La première, c'est que c'est une réaction compréhensible à une situation réelle. C'est-à-dire la lente disparition de la classe moyenne, l'insécurité économique, la crise de 2008, et l'incapacité de Washington de répondre à tout cela.
Donc, et donc ça expliquerait aussi bien Trump, côté républicain, et Bernie Sanders, côté démocrate.
C'est cela, oui, c'est vrai. Deuxième interprétation, c'est une réaction incompréhensible à une situation réelle. Ici, on met l'accent sur l'homme blanc, sans éducation supérieure, qui n'est plus au centre de l'univers et est en colère. Il se sent remplacé par les femmes, les minorités, les élites, et ça explique son nationalisme et racisme. Troisième interprétation, qui m'intéresse le plus, c'est que le phénomène tient à une abdication massive du public américain de la politique.
Une abdication, vous voulez dire un désintérêt ou une autre manière de se détourner complètement du processus politique?
Tourner complètement du processus. Et c'est ça que je trouve le plus inquiétant et dangereux. Donald Trump est un populiste, comme on le sait. Il y a des populistes partout en Europe maintenant. Mais le populisme européen aujourd'hui est très politique. Ça veut dire qu'il y a des partis, il y a des mouvements, il y a des publications, etc. Aux États-Unis, le populisme est antipolitique et médiatique. Beaucoup d'Américains ne veulent plus se gouverner. Ils veulent être gouvernés par un manager et pas par une élite politique et des médias.
Un manager qui serait à la fois sur Twitter, sur Facebook, et dont les humeurs correspondraient aux leurs, en quelque sorte.
Tout à fait. Donald Trump est fait pour ce rôle. Il est très, très connu aux États-Unis, mieux connu que Barack Obama. Pendant 10 ans, les Américains l'ont regardé chaque semaine à la télévision. J'ai regardé les chiffres ce matin. Pendant la première saison de son émission, il a eu 28 millions de spectateurs. L'émission a duré 10 ans. Ses supporters lui font confiance. Ils veulent lui donner les clés de la maison et puis aller en vacances. Et c'est pour cela qu'il ne s'inquiète pas que Donald Trump n'a pas de programme. C'est Donald. On le connaît. Et ça va aller maintenant.
En même temps, on voit que, certes, il a défait les 16 candidats républicains qui étaient alignés à ses côtés au tout début de la campagne, donc l'été dernier. Mais on voit à quel point l'élite, la direction du Parti républicain a été très lente à reconnaître sa victoire. Et maintenant, après les propos invraisemblables qu'il a tenus sur un juge fédéral qui serait suspect à cause de ses origines hispaniques, on voit à nouveau la direction du Parti républicain qui se crispe et qui se demande comment ils vont pouvoir fonctionner avec un candidat qui, par ailleurs, est à peu près opposé à tout ce qui fait les dogmes du parti depuis 30 ans. C'est quand même une situation politiquement bizarre.
Oui, ce sont vraiment des lâches. C'est évident maintenant.
Pape Ndiaye, l'intérêt de Donald Trump vu de l'autre camp, donc du côté démocrate, c'est un adversaire parfait.
C'est un adversaire parfait, quoique il y a toujours, bien entendu, le risque qu'il soit élu. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Mais Trump a une fonction quand même tout à fait utile, si on peut le dire de manière un peu cynique. C'est qu'il permet la mobilisation de toutes celles et ceux qui ne veulent pas du tout de lui. Je pense en particulier en ce moment aux grandes campagnes d'enregistrement sur les listes électorales du côté des hispaniques et des afro-américains, qui sont des électorats qui généralement votent un peu moins que les autres électorats. Et donc que ces personnes-là vont se mobiliser pour Hillary Clinton, pas forcément de manière positive parce qu'ils approuveraient Hillary Clinton. On est loin évidemment de la mobilisation qui était la mobilisation positive en faveur d'Obama en 2008 et également en 2012, mais en quelque sorte par défaut pour éviter le pire, c'est-à-dire l'élection de Donald Trump.
Encore faut-il qu'il puisse s'inscrire, parce que dans plusieurs États du Sud gouvernés par des républicains, on leur met des bâtons dans les roues pour empêcher qu'ils aillent gonfler précisément le vote démocrate.
On assiste à cela depuis quelques années, à savoir que le Parti républicain s'efforce dans des États comme le Texas, par exemple, là où il est à peu près tout puissant, de limiter au maximum la participation électorale des groupes qui lui sont défavorables, en premier lieu des hispaniques et des afro-américains. On ne peut pas le faire d'une manière réglementaire comme avant 1965, mais on le fait par toutes sortes de stratagèmes qui, à l'arrivée, limite la participation électorale. Par exemple, on réduit le nombre de bureaux de vote dans les quartiers hispaniques ou dans les quartiers noirs. On réclame des papiers, des fameuses photo ID, un type de document que ces personnes n'ont pas toujours, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis la Cour suprême, depuis 2 ans, a décidé que la supervision fédérale des États du Sud, qui étaient les États ségrégés jusqu'en 64, supervision qui visait à garantir le droit de vote pour ceux qui, jadis, ne pouvaient pas voter en premier lieu les Noirs, que cette supervision-là n'était plus nécessaire parce que la Cour suprême a dit que, finalement, dans le Sud, on était arrivé à une situation normale. Et donc ça favorise toutes les initiatives locales qui sont les initiatives de restriction du droit de vote. Et je crois que cela sera un enjeu important de l'élection présidentielle à venir.
Dans ce contexte, Mohamed Amili a disparu. Sa mort, ses funérailles ont eu un retentissement immense dans toute l'Amérique. Bill Clinton s'est exprimé aux funérailles. Quel effet politique est-ce que la disparition de Mohamed Ali peut avoir?
C'est encore difficile à voir, mais on peut minimalement dire que sa disparition est tout de même l'occasion pour le monde progressiste aux États-Unis, en tout cas pour tous ceux qui croient que la politique peut changer les choses à une époque où la défiance est très très forte à l'égard des gouvernants, à l'égard du gouvernement fédéral, à l'égard du système en général. Non pas que Mohamed Ali était un homme du système, mais enfin, il croyait dans la possibilité de la politique de changer les choses. Donc c'est l'occasion au fond de réaffirmer peut-être les vertus, les valeurs de l'engagement politique. Mohamed Ali était un homme engagé, pas simplement un grand boxeur, qui a payé d'ailleurs très cher cela, puisque sa carrière s'est interrompue pendant 3 ans au fait de ses talents de boxeur.
Parce qu'il avait refusé d'aller
au Vietnam
en guerre.
Et qu'il était membre de Nation of Islam, donc d'un groupe qui était évidemment vilipendé à cette époque. Il a été proche de Malcolm X avant l'assassinat de Malcolm X en 65. Donc un homme très engagé qui vient rappeler aussi une époque, celle des années 60, qui était une époque d'espoir, même une époque très tumultueuse, mais en tout cas l'époque où il y avait des possibilités de changement. Et donc c'est au fond comme un rappel presque subliminal que la politique, ça compte face à un Trump qui, bon, exerce ses talents de candidat d'une façon qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on peut espérer dans la politique.
Précisément, Jean-Éric Brana, vous avez publié un livre sur Trump il y a quelques mois. Ce qui est fascinant dans la manière dont Trump a gagné ses primaires, il les a gagnées très rapidement d'ailleurs, il n'a même pas eu besoin d'aller jusqu'au bout, c'est qu'effectivement il a cassé tous les codes.
Il a injurié tout le monde, il a menti avec tout le monde, il est passé à travers les gouttes aussi, parce que il faut dire que jusqu'à maintenant, dans une campagne américaine, pour le quart de la moitié de ce qu'a fait Trump, ça voulait dire fin de la campagne. Et avec Trump, il n'y a rien qui a pris. D'ailleurs, on l'a appelé le candidat Teflon, ce qui veut dire beaucoup de choses et qui nous fait poser, je crois, de vraies questions. J'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit par mes deux précédents interlocuteurs juste avant, parce qu'il me semble qu'on s'est un petit peu trompé en regardant cette campagne depuis le départ, en considérant que Donald Trump était un homme politique, alors que de mon point de vue, et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre sur Trump, alors que j'entendais parler de guignol, de clown, mais toujours en le situant dans le contexte politique, il me semblait que Donald Trump était autre chose. Effectivement, du populisme très à l'américaine, comme on l'entend, et qui se rapproche effectivement du monde plutôt de l'entertainment que des médias, me semble-t-il. Et surtout, qu'il révélait une crise sociétale plutôt que politique. Parce qu'ici, autour de cette table, nous avons tous connu l'Amérique d'avant le 11 septembre, une Amérique légère où on pouvait
passer... Et l'Amérique d'avant 2008, la crise des subprimes.
Absolument. Mais ce qui me marque, moi, particulièrement, c'est que j'ai pu traverser des frontières passer dans des aéroports, et j'ai une anecdote, ayant été Fulbright en 2001, je me trouvais là-bas avec un Indonésien. On lui demandait ce qu'il avait quelque chose à déclarer. Il disait « Oui, j'ai une bombe dans ma valise ». Et ça avait amusé tout le monde. Je parle de ceux qui faisaient les contrôles à la douane. Aujourd'hui, il sera en prison pour la même chose.
Et oui, on est vraiment... De toute façon, c'est jamais drôle. Hein,
c'est jamais drôle, mais après, on est... Non, je vous l'accorde.
Non, c'est pas drôle.
Mais Mais en tout cas, on n'est plus du tout dans la même échelle de valeur. Et pour rebondir sur un deuxième fait que nous narrait Pape, et qui est très fort à propos de cet arrêt du vote des Noirs ou des Hispaniques dans le Sud, un ami me racontait il y a deux jours qu'il avait essayé d'aller renouveler son permis de conduire, puisque l'ID dont on parle, le papier d'identité, c'est bien souvent le permis de conduire, et qu'en Virginie occidentale, ils ont changé les règles au cours de ces dernières années, et désormais, pour pouvoir renouveler, il faut non seulement avoir une preuve de résidence dans l'État, mais il faut également avoir deux preuves comme quoi on habite bien le coin, et ces deux preuves doivent être les deux distinctes l'une de l'autre. Avant, on pouvait arriver avec deux comptes bancaires, ce qui est courant pour des Américains. Aujourd'hui, c'est interdit. Des complications qui font que pour la classe moyenne ou les classes les plus basses, on ne peut pas avoir ces documents, et donc on ne peut pas avoir délivrance d'un papier d'identité, et donc on ne peut pas voter.
Alors, il faut bien voir que ce sont les États, et Hillary Clinton l'a prouvé au cours des primaires, ce sont les bastions du Parti démocrate, et plus précisément encore des bastions Clinton, où Bill Clinton, sa personnalité, le souvenir qu'en ont des gens, même qui n'étaient pas nés sous ces deux mandats, le souvenir d'un cycle économique prospère, tout cela n'a pas empêché une avalanche de critiques qui se sont abattues sur la campagne d'Hillary. On a dit, c'est une mauvaise candidate, voilà, tout le monde la trouve antipathique. On s'est souvenu de la formule de Barack Obama lors de la campagne de 2008, où quand il a dit « Oh, she's likable enough ». Oui, après tout, ça va à peu près, quoi. Comment expliquez-vous ce décalage ?
Mais je ne vais pas forcément vous expliquer ce décalage, je risque de vous décevoir, parce que je trouve, moi, qu'elle a fait une très bonne campagne. Je m'inscris dans un autre tempo. Je voudrais qu'on se souvienne quand même, 12-13 avril, donc ce clip qui est arrivé, dans lequel elle s'effaçait pour laisser la vedette au peuple américain, avec cette diversité. On a tous commenté à ce moment-là en disant « Ouh, mais c'est très novateur, c'est assez extraordinaire de
la
part de... »
Oui, en même temps, on sentait bien que toute son équipe de communication avait dû dire « Bon, assez, fini l'image d'arrogance, de froideur, maintenant on va aller voir les vrais gens. »
Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a repris, oui, elle a repris sa technique de sénatoriale avec Scooby-Doo et repartir en Iowa, aller discuter avec les gens. Mais c'est ce qu'elle a fait depuis, pendant un an, ce qu'on ne voit pas, parce que ce n'est pas du tout médiatique, d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer 10 personnes, une famille dans un restaurant, c'est pas médiatique. Et pourtant, elle en a tiré ce qui, à mon avis, fera la présidence d'Hillary Clinton, c'est la réalité, un contact avec la réalité, la connaissance de la vraie vie. Et on sent dans ses discours aujourd'hui, qui sont franchement très percutants, on a entendu ces deux derniers discours au cours de ces deux dernières semaines, que ce soit sur la politique étrangère de Donald Trump, un discours vraiment très fort, ou en début de semaine, quand elle est devenue intronisée avec l'investiture de son parti en gagnant notamment la Californie, elle avait les mots justes, elle avait des mots ciselés, elle savait exactement à qui elle parlait et pourquoi elle parlait, ces mots touchaient. Donc ça, c'est vraiment une nouvelle Hillary Clinton qui n'a rien à voir avec le sénateur que l'on a connu, qui n'a rien à voir avec le secrétaire d'État. Elle avait déjà une force en elle, maintenant elle a également un savoir-faire, parce que je crois qu'elle s'est imprégnée dans cette campagne de ce que sont les gens. Et donc effectivement, c'est très bon augure pour la campagne qui s'annonce aujourd'hui, parce qu'on a une vraie différence entre un Donald Trump, dont on a dit un populiste qui fait des meetings à 30 000 personnes et qui donc diffuse un message, et Hillary Clinton qui est beaucoup plus dans l'intime et qui avale ce qui lui arrive de l'extérieur pour pouvoir le rendre à la sauce Hillary Clinton, ce qui est quand même pas mal.
Donald Green, professeur à l'Université Columbia à New York, spécialiste des sondages. Que donne aujourd'hui, dans leur grande diversité, il y en a énormément, mais que donnent aujourd'hui les sondages sur le duel Clinton-Trump ?
Eh bien, les chiffres varient d'un sondage à l'autre. Dans certains sondages, elle a un avantage de 2 ou 3 points. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont ex aequo. Mais quoi qu'il en soit, je dirais qu'elle a quand même une chance de 72% de probabilité de victoire. C'est le dernier sondage en date. À mon avis, nous devons attendre les sondages qui auront lieu après la reddition de Bernie Sanders. parce que tant qu'il continue à se battre jusqu'à la fin de la convention, les gens qui sont en sa faveur vont sans aucun doute dire qu'ils ne vont pas soutenir Hillary Clinton, mais ils vont quand même se plier à voter pour elle quand il aura jeté l'éponge. Par conséquent, son petit avantage dans les sondages est une sous-estimation de sa réelle probabilité de victoire.
Mais Bernie Sanders a perdu de façon significative en Californie. Son grand espoir a donc fondu au soleil californien. Pourquoi persiste-t-il à s'accrocher et à promettre ainsi de se battre jusqu'à la convention de Philadelphie fin juillet ?
Oui, c'est un petit peu mystérieux. Vous avez raison. Sa défaite en Californie fut assez cinglante. Il a perdu non seulement du point de vue du vote des électeurs, mais il a également perdu du point de vue du nombre des délégués. Monsieur Trump et Monsieur Sanders ont dit que Hillary Clinton avait gagné grâce aux superdélégués. Si on retirait les superdélégués du décompte, on arriverait à 4051 délégués, dont elle a déjà gagné 2184 votes. Donc, elle a quand même une majorité assez claire des délégués simples. Donc, ce n'est pas très clair tout ça. Et évidemment, on sait qu'elle sera la candidate des démocrates. Monsieur Sanders, ne l'oublions pas, a 74 ans, c'est sa dernière grande chance de faire virer la plateforme des démocrates vers la gauche en mettant l'accent sur un certain nombre de problématiques que Hillary Clinton voudrait aborder. Je pense à la réglementation du secteur bancaire, la santé et ainsi de suite. Ça, il voudrait orienter à gauche. Sanders voudrait orienter cela à gauche. Madame Clinton, elle, à mesure qu'elle gagne de la vitesse pour l'élection générale, il faudra qu'elle fasse montre de plus de modération pour pouvoir remporter les swing states.
Pap Ndiaye, cette façon de pousser donc le programme, la plateforme démocrate vers la gauche, on a déjà vu son effet pendant la campagne des primaires où Hillary Clinton s'est alignée progressivement sur un certain nombre des arguments de Bernie Sanders. Mais est-il véritablement dans le code de bonne conduite du Parti démocrate en particulier, où il y a, je crois, un fort coefficient de légitimité ou de reconnaissance de la légitimité, est-ce que Sanders n'est pas en train de se faire énormément de tort ?
Sanders est en marge du Parti démocrate. Il a longtemps été indépendant, d'ailleurs. Il a rejoint récemment le Parti démocrate. Il s'accroche à son micro, à sa tribune, à ces foules de jeunes gens qui l'applaudissent comme hier ou ces jours derniers. Et cela, c'est une drogue puissante aussi. C'est pas facile à abandonner à coup sûr. Mais il est clair que sa stratégie devient de moins en moins claire. Il a déjà pesé de manière évidente sur la campagne d'Hillary Clinton, du côté d'une protection sociale universelle, du côté de l'abandon de l'oléoduc qui doit traverser l'Amérique du Nord, du côté du salaire minimum. Hillary Clinton s'est ralliée à des propositions qu'elle écartait il y a encore quelques mois. Donc il a joué son jeu, il l'a bien fait. Et la manière dont il s'accroche est en effet assez étrange au vu de l'histoire d'un parti qui est assez légitimiste. Mais encore une fois, lui est un candidat qui est semi-démocrate au fond. Il est à la fois, il a un pied dans le Parti démocrate, il a un pied en dehors du Parti démocrate. Reste qu'on ne voit plus très bien à ce stade-là ce qu'il entend faire politiquement d'ici à la convention de Philadelphie.
Il a été reçu par le président Obama jeudi. La rumeur avait même couru dimanche soir à Los Angeles, donc à deux jours de la primaire, que le président Obama l'avait appelé au téléphone probablement pour lui dire de se calmer parce que Sanders venait au vitriol d'attaquer encore une fois Hillary. Il avait été jusqu'à dire qu'en gros sa politique étrangère, ben, c'était à peu près la même que celle de Trump, ce qui était assez bizarre. Jusqu'à quel point le président Obama va peser sur le duel Clinton-Trump et sur les 5 mois à venir ? Il reste extrêmement populaire.
Obama était extrêmement populaire.
Au-dessus de 50%.
C'est ça, ce qui est une popularité record pour un président qui s'apprête à quitter la Maison Blanche. Il est au niveau et même au-delà de Clinton en 2000, par exemple. Et de toute évidence, il s'apprête à entrer en lice et à donner un coup de main à Hillary Clinton, ce que traditionnellement les présidents américains font relativement peu parce qu'ils veulent donner de la marge et de l'air politique aux successeurs. Donc ils se maintiennent dans une attitude de soutien, mais d'un soutien finalement relativement réservé. Lui va sans doute aller au-delà avec un argument premier qui est tout sauf Trump. Enfin, plus exactement, Trump représente une menace pour l'intérêt général des États-Unis. Et à ce titre-là, il vaut que je me mobilise pour lui. En tout cas, c'est ce qu'il pourrait dire en substance. Et puis, son héritage politique est menacé directement par Trump, qui a promis de démanteler à peu près tout ce que Obama peut faire. Donc, si Obama pense, et bien entendu laisser une trace dans l'histoire, au-delà du simple fait de son élection et de sa réélection, ce qui est déjà un événement historique, s'il veut laisser une trace dans l'histoire, il a tout intérêt à jeter ses forces dans la bataille aux côtés d'Hillary Clinton.
Marc Lilla, on sait que les relations entre le président Obama et celle qui devint sa secrétaire d'État après qu'il l'eut battu en 2008 pour la présidence, les relations n'ont jamais été extraordinairement chaleureuses. Néanmoins, Hillary, dans ses discours, mentionne très souvent le président Obama, ne serait-ce évidemment que pour coller en quelque sorte au socle électoral dont elle a besoin. Quelle peut être maintenant, selon vous, la stratégie d'Hillary Clinton face à Trump ? Là, on change complètement de registre.
Oui, en fait, sa stratégie me rappelle la stratégie que Muhammad Ali a utilisé contre ses adversaires. Il l'appelait le rope-a-dope. Ça veut dire que il restait dans les cordes pendant une demi-heure, encaissant tous les coups sans y répondre. Mais dès que son adversaire était épuisé, Ali l'achevait avec des coups féroces. Et je crois que ça serait une stratégie intelligente pour Hillary Clinton, parce que le pire ennemi de Donald Trump, c'est Donald Trump. Donc il faut se taire, il faut se taire beaucoup, hein.
Oui.
Et le laisser faire.
En même temps, quand les républicains qui se rallient à lui, et ils n'ont pas le choix, y compris John McCain qui se représente dans l'Arizona en grinçant des dents, mais qui dit « Bon, Trump est quand même le candidat républicain, donc je n'ai pas le choix ». On se souvient que Trump avait insulté McCain en disant que c'était un loser, puisqu'il s'était laissé faire prisonnier par le Vietcong pendant 5 ans. Bon, je referme la parenthèse. On voit quand même que Trump, chaque fois l'entourage républicain dit « Oh, rassurez-vous, il va se calmer, on va avoir une très bonne influence sur lui, il va devenir un président normal ». Et en fait, Trump rebondit sur scène et il dit « Trump fait du Trump » et c'est ça qui marche.
Oui, et surtout, il faut qu'il le fasse parce qu'il n'a pas d'organisation, en fait. La campagne est une boîte aux lettres. Et donc, pour qu'il puisse continuer à mobiliser ses supporters, il faut qu'il soit toujours sur l'une des journaux et sur la télévision. Et donc, c'est une machine qui doit toujours marcher et il ne peut pas recaler un petit peu pour bâtir une vraie campagne. Donc, vu qu'il doit toujours parler et oser et dire les choses osées, il y aura beaucoup d'opportunités de le laisser s'exploser, en quelque sorte.
Jean-Éric Brana, face à ce Trump qui a déjà commencé à cogner Hillary au-dessus et en dessous de la ceinture, on va avoir droit à un déferlement de vulgarité en tout genre. Il dit déjà qu'elle devrait être en prison à cause de l'affaire des emails. Il dit déjà qu'une femme incapable de satisfaire sexuellement son mari ne peut en aucun cas être présidente des États-Unis. Il va ressortir toutes les anciennes vieilles maîtresses de Bill Clinton. Enfin, ça va être un déballage comme on n'en a jamais vu.
Ça nous fait une cure de jouvence. Moi, je n'avais pas entendu parler de Jennifer Flowers et tout ça depuis très longtemps. Donc, on retourne. Évidemment, ça n'intéresse personne et c'est pas le...
Ah,
le
ça, type... c'est pas sûr. Vous savez, non, les gens adorent...
Non, les gens aiment peut-être entendre parler. Ce n'est pas ce qui va motiver leur vote, je ne crois pas. Je partage vraiment l'opinion de Marc sur la stratégie de campagne. Je me suis demandé longtemps quel type de campagne Hillary pourrait développer face à quelqu'un qui a réussi à terrasser 16 dragons déjà. Donc, c'est pas si simple. Même si Gilmore n'était pas très important, il y en avait au moins 15 qui étaient importants et qui avaient de la bouteille politique. Mais le phénomène Trump s'appuie effectivement sur du trumpisme, c'est-à-dire sur de l'outrance. Et effectivement, c'est être en première page des journaux tout le temps, faire parler de lui. Ça peut marcher dans une primaire et des caucus parce qu'on a une compétition entre personnes de même camp et que les gens doivent faire le choix, on va dire, entre deux sodas noirs avec des bulles, sans citer de marque. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là, on est dans un autre choix. Il s'agit de savoir qui va conduire le pays avec des vraies conséquences sur la vie de tous les jours. Et je crois qu'effectivement, aujourd'hui, les gens font un vrai choix. L'éducation a quand même énormément augmenté dans la population et les gens savent distinguer le vrai du faux. Or, en restant alors dans les cordes, j'aime beaucoup l'image, hein, et en attendant les coups, Hillary Clinton, qui va s'appuyer sur du fond, ce qu'elle a, pourra développer tranquillement sa campagne et attendre l'événement de campagne qui bouscule tout, comme on a eu dans toutes les campagnes, depuis Kennedy qui pouvait apparaître à la télé avec son merveilleux sourire et donc séduire, etc. On a eu ça à chaque fois. Et on va attendre l'événement de campagne qui va tout bousculer.
Mais les événements peuvent aussi lui être très défavorables.
Et c'est ce que j'allais vous dire. Et malheureusement, il peut se passer des événements qu'on peut tous craindre. Par exemple, un attentat. Et on a vu que les attentats ont fait monter Trump à chaque fois parce que besoin de sécurité. Eh bien, lui qui est l'outrancier, mais en même temps le courageux, qui ne recule jamais, qui ne s'excuse pas, qui est la brute épaisse, on se dit, tiens, il va aller défendre l'Amérique. C'est vrai que cette stratégie a sa propre limite, qui est que si on avait ce type d'événement et très proche du vote, ça pourrait effectivement être très favorable
mais
à Donald Trump.
Hillary a aussi deux problèmes qui sont quand même très menaçants. Toujours l'histoire des emails, puisque l'enquête du FBI se poursuit. Donc, est-ce qu'on peut imaginer, à 5 mois de l'élection, que le FBI la mette plus directement encore en cause? Et puis, il y a, et Trump a déjà commencé à attaquer là-dessus, les conflits d'intérêts éventuels avec la fondation Clinton. Donc, on sait que le couple, et d'ailleurs la fille, Chelsea, qui en est maintenant la directrice générale, font tourner une fondation extrêmement, bien dotée en financement en tout genre, et avec parfois même des financements assez suspects. Donc, là aussi, il va y avoir énormément de bulles nauséabondes qui vont sortir, là.
Et tous vos auditeurs auront relevé l'ironie que ce soit Donald Trump qui attaque sur des questions pareilles, sachant d'où il vient et comment il a bâti sa fortune. Je ne crois pas que ça ne portera. D'abord, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Cette affaire de fondation, ça fait plus d'un an et demi qu'on en parle aux États-Unis. Les emails, même Bernie Sanders, dans un débat, a dit « Écoutez, on n'en peut plus, on n'y comprend rien et il faudrait passer à autre chose. » Ce sont des attaques, c'est du réchauffé. Alors, il y a le danger du FBI. Est-ce que le FBI va sortir un rapport qui pourrait déboucher sur une mise en examen, pas d'ici le mois de novembre. Ça pourrait obliger Hillary Clinton à une négociation avec un procureur qui pourrait éventuellement être nommé. Là encore, il faudrait que ça aille très très vite. Hein, parce que si ce n'est pas fait d'ici la convention, je ne vois pas trop comment on pourrait arriver à aboutir d'ici le 8 novembre. Par la suite, si quelque chose se développait, on rentre dans la procédure d'impeachment qui est prévue par la Constitution pour un élu. Elle serait lavée très rapidement de tout soupçon parce que, bien évidemment, pour une affaire pareille, on n'irait pas très très loin, même si elle avait un congrès contre elle ce qui risque d'arriver, parce qu'on ne parle jamais de cette affaire-là, mais c'est le plus gros danger qui la guette en devenant présidente.
Marc Lilla.
Oui, c'est un peu un paradoxe que les affaires de Hillary Clinton sont très dangereuses pour elle, mais les affaires de Trump ne le sont pas. Et c'est parce que Trump peut s'appuyer sur le fait que ses supporters s'en fichent des conséquences de son élection, s'en fichent de ses affaires, l'université Trump et tout cela. Et c'est une vote de proteste. Et comme je disais, ils veulent aller en vacances.
Ils veulent aller en vacances. En attendant, les intellectuels, les commentateurs... Qui chaque jour écrivent des tonnes de papiers, souvent intéressants d'ailleurs, sur cette campagne tout à fait échevelée, commencent à s'interroger, au-delà de l'anecdote, et Dieu sait s'il y en a, sur la nature même du phénomène Trump. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International et vous avez relevé en particulier un papier qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il est signé Robert Kagan, qui était le chantre des néoconservateurs à l'époque de Bush. Et lui, Kagan, il n'y va pas de main morte contre Trump.
Oui, tout à fait. Ce chercheur maintenant à la Brookings Institution a publié, donc c'était il y a un mois, cette tribune dans le Washington Post qui fait effectivement beaucoup de remous aux États-Unis parce que dans cet article, l'auteur s'interroge sur l'incroyable succès du promoteur immobilier new-yorkais. Et pour lui, le phénomène Trump n'a rien à voir avec la politique ou l'idéologie. Trump a même transcendé le parti qui l'a produit, écrit Robert Kagan, qui poursuit son armée toujours plus nombreuse de partisans, ne se soucie plus des républicains, ils ne soutiennent que lui. Et alors pourquoi le soutiennent-ils? Est-ce parce que, comme on le dit souvent, ses supporters de Trump souffrent de la stagnation économique ou parce qu'ils ont le sentiment d'être mis à l'écart? Oui, peut-être, répond l'auteur, mais ce que Trump offre à son auditoire, ajoute-t-il, c'est une attitude, une aura de force brute et de machisme, un mépris affiché pour les subtilités de la culture démocratique. Pour l'auteur, le rapprochement avec les années 30 est évident. Au cours du siècle dernier, écrit-il, on a vu ce phénomène se produire dans des pays démocratiques et quasi-démocratiques, et généralement, on a eu tendance à appeler ça le fascisme. Et Robert Kagan conclut, ainsi l'Amérique devint-elle fasciste? Non avec des bruits de bottes et des saluts, mais avec un milliardaire égocentrique qui a pu puiser dans le ressentiment et l'insécurité du peuple.
En même temps, pour une oreille européenne, ce terme fasciste paraît inapproprié.
C'est vrai, et en même temps, Robert Kagan n'est pas le premier à faire ce rapprochement avec les années 30. Le New York Times rappelle de son côté qu'un ancien gouverneur du Massachusetts, William Fell, a comparé le projet anti-immigration de Donald Trump avec la nuit de cristal organisée par les nazis en 1938. En fait, cette comparaison n'est pas nouvelle aux États-Unis, écrit le New York Times, mais avec Trump, elle est devenue beaucoup plus fréquente. Le journal cite le président mexicain qui a évoqué Mussolini, Hitler en parlant de Trump, ou encore Eva Schloss, la demi-sœur d'Anne Frank, qui juge, elle, à ses 87 ans, que Trump agit comme un nouvel Hitler. Pour en savoir plus, le New York Times est allé interroger l'historien Robert Paxton. Et la réponse du célèbre universitaire américain est intéressante. Il explique bien que les messages sur le déclin de l'Amérique ou sur le thème du « eux contre nous » à propos des étrangers et des migrants font bien écho à l'Europe des années 30. Pour autant, précise Robert Paxton, Trump n'a pas créé de mouvement de jeunesse violent et en uniforme. De même, alors que les fascistes veulent un contrôle fort de l'État, lui souhaite se débarrasser de l'État et prône la dérégulation. Donc, des similitudes, mais aussi beaucoup de différences. Et surtout, le journal prévient, ce débat sur la terminologie risque de passer sous silence la gravité des conditions qui ont permis l'essor de Donald Trump ou de ses homologues aujourd'hui en Europe.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Pape Ndiaye, la gravité des conditions, donc ces courants de fond qui traversent la société américaine, Marc Lilla nous l'expliquait dès le début de cette conversation. Mais on voit bien, en particulier, parmi les jeunes, ceux qu'on appelle là-bas les millennials, qui se sont rués vers Bernie Sanders comme Papa Noël, d'ailleurs, c'est l'image qu'emploie Sanders lui-même. Oui, je suis Papa Noël, je vais vous dire, on va doubler le salaire minimum, établir la couverture maladie pour tout le monde, etc., etc. Et je sais comment je vais financer, en gros, en mettant les banquiers en prison, enfin, en taxant la spéculation. Néanmoins, comment t'expliquer cet embrasement de la jeunesse, en tout cas de la jeunesse dans les grandes villes, pour Bernie Sanders?
C'est une histoire un tout petit peu plus longue que la campagne de Sanders. Si on se rappelle le mouvement Occupy Wall Street, par exemple, en 2010, qui a eu un moment extrêmement fort à New York et puis dans beaucoup d'autres grandes villes, qui mobilisait la jeunesse américaine. La jeunesse estudiantine, d'ailleurs, plus que la jeunesse des quartiers les plus pauvres. On voit bien qu'il y a une histoire depuis quelques années qui est une histoire de mobilisation politique qui n'avait pas trouvé à ce moment-là, d'ailleurs en 2010, de débouché politique. Le Parti démocrate, Obama, n'avait pas fait les clins d'œil à Occupy Wall Street que, de son côté, le Parti républicain avait fait du côté du Tea Party, en incorporant le populisme du Tea Party à l'intérieur du Parti républicain. Le Parti démocrate ne l'a pas fait. C'est Sanders, au fond, qui est l'héritier du mouvement Occupy Wall Street, qui en exprime d'ailleurs avec talent, hein, un grand talent oratoire, un certain nombre de ses expressions et de ses revendications. Revendications qui ont un côté parfaitement illusoire et qui peut prêter à sourire parfois, et puis qui aussi sont des revendications qui peuvent être sérieuses. Le doublement, par exemple, du salaire minimum a été fait à San Francisco. On a levé les bras au ciel à San Francisco quand le salaire minimum est passé à $15 et on s'est aperçu que ça a plutôt bien fonctionné dans une ville qui ne représente pas toute l'Amérique.
Certes. Non, et qui au contraire illustre ce contre quoi toute une partie de l'opinion américaine, publique américaine, se révolte à juste titre, qui est le décalage croissant entre les très 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 riches et la classe moyenne.
C'est ça, que les présidences Obama n'ont pas remis en cause, hein. Les écarts de richesse, à la fois du point de vue des revenus et du point de vue des patrimoines, ont continué à s'aggraver après 2008 sur une pente un peu moins forte qu'auparavant, mais quand même, ce qui tout de même est une ombre sérieuse sur le bilan de la présidence Obama, qui n'a pas été une présidence transformative, hein, comme on dit en sciences politiques, une présidence qui aurait introduit un changement très net, un avant et un après. Les riches ont continué à s'enrichir, les pauvres ont stabilisé leur situation, mais les écarts se sont accrus depuis 2008, et la classe moyenne, comme on disait tout à l'heure, a souffert de façon très évidente, avec des positions très très fragilisées en matière de pouvoir d'achat aussi, de sécurité d'emploi depuis 2008 et qui permettent aussi de comprendre le vote populiste, soit du côté Sanders, soit du côté Trump.
Donald Green, professeur en sciences politiques à l'Université Columbia, spécialiste des sondages, comment est-ce que le clivage générationnel que l'on a vu, surtout côté démocrate, entre les partisans d'Hillary Clinton d'un côté et de Bernie Sanders de l'autre, comment est-ce que ce clivage va jouer dorénavant sur les sondages? Que nous disent les sondages là-dessus?
Well, it certainly is the case that c'est vrai que Bernie Sanders attire particulièrement les jeunes électeurs. En effet, les jeunes électeurs ne sont pas tellement liés au Parti démocrate. Plus on est lié au Parti démocrate, plus on soutient Hillary Clinton. J'en veux pour preuve le gros avantage qu'elle a par rapport aux super-délégués, qui sont quand même des responsables politiques d'appareil. Alors, les jeunes qui ont moins d'attache au Parti démocrate préfèrent les candidats, disons, insurgés, comme Bernie Sanders, voire, dans une certaine mesure, Donald Trump.
Même question en ce qui concerne l'origine ethnique. Jusqu'à quel point est-ce que les minorités en particulier vont conditionner leur vote en fonction de critères communautaires?
Well, there are tremendous differences with respect to race. Il y a de très grandes différences du point de vue de la race. Les Blancs sont légèrement en faveur de Trump par rapport à Hillary Clinton, alors que les non-Blancs préfèrent Hillary Clinton. L'avantage d'Hillary Clinton chez les non-Blancs n'est guère surprenant si on considère les Afro-Américains, mais Par contraste aux élections de l'ère Bush, eh bien les Latinos, eux, soutiennent Hillary Clinton, ce qui reflète vraisemblablement les affirmations qu'a faites Donald Trump au début de la campagne sur les Mexicains notamment.
Oui, c'est d'ailleurs extraordinaire, encore une fois, et on y faisait allusion, mais Donald Trump donne l'impression de se tirer dans le pied, notamment quand il a mis en cause les origines hispaniques de ce juge fédéral qui enquête sur les l'escroquerie de l'université Trump. Néanmoins, Jean-Éric Brana, jusqu'à quel point est-ce que l'économie, les facteurs économiques peuvent peser dans les 5 mois qui viennent? On se souvient de la fameuse formule de Bill Clinton qui disait « It's the economy, stupid ». Est-ce que c'est encore une fois, on voit que l'économie ralentit, que même si les chiffres du chômage nous paraissent à nous mirifiques, ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne se préoccupent plus de s'inscrire sur les listes. Donc, cette espèce de flottement de l'économie américaine, quel impact électoral?
C'est une vraie question, ce que vous venez de dire, parce que effectivement, on est pour le chômage un chiffre magique, hein, 4,7. Nous, on arriverait en France, hein, c'est assez clair. Et on donne tout de suite une explication pour peut-être se rassurer en disant oui, mais beaucoup ne s'inscrivent pas. Bon, c'est comme ça dans toutes les démocraties du monde, hein, ça tient pas aux États-Unis. On a quand même en dynamique une vraie reprise. C'est vrai que l'emploi a été créé, même si on a eu moins d'emplois créés le mois dernier par rapport à ce qui était prévu, et que Trump a bondi tel un faucon sur ce chiffre en disant « mais vous voyez, effectivement, il y a un vrai problème ». Alors, est-ce que l'économie va peser? Bien sûr qu'elle va peser. Une élection américaine sans économie, c'est quasiment pas possible. Et en même temps, elle va peser sans peser, parce que on a beaucoup disserté sur le phénomène Trump. Il y a quelque chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'il n'a aucune offre sérieuse en termes économiques, parce que son statut de milliardaire l'exempte d'avoir une proposition qui tiendrait la route.
Oui, alors, mais en même temps, quand il dit aux gens, et on voit l'expression absolument émerveillé sur les visages. Moi, je suis riche. Je suis très, très riche. Donc, je sais comment faire de l'argent et je sais faire des deals. Et donc, en gros, vous serez riche aussi puisque je le suis. C'est encore une fois une espèce de phénomène de presque de parapsychologie qui est tout à fait saisissant. Et puis, il dit, moi, je sais faire des deals. Donc, on va faire des bons deals qui vont créer de l'emploi.
Il dit même, vous en aurez marre que ce soit aussi bien, tellement ça va être bien. Ça va quand même très loin. Et n'oubliez pas que cet homme-là fait des livres de PNL depuis 20 ans, c'est-à-dire de bien-être, on se rassure. Il ne fait qu'appliquer ce qu'il a mis dans ses livres. Comment devenir riche en disant que je veux devenir riche parce que je vous vends des livres qui fait que vous les achetez et je deviens riche. Donc je vous ai prouvé qu'on pouvait devenir riche. Mais ça repose sur rien. C'est le bonimenteur. On a connu ça depuis la nuit des temps et on l'a maintenant au niveau le plus haut, au niveau politique. Et il se trouve que c'est un milliardaire, donc on ne peut pas l'attaquer sur une crédibilité qu'il n'a pourtant pas. Parce qu'on pense que le fait qu'il soit riche fait qu'il a cette crédibilité. C'est aussi là-dessus qu'est construite la société américaine. Vous savez, il y a quand même deux racines dans la société américaine, très rapidement. Mais il y a la religion, qui est le premier pied, et il y a le deuxième, qui est l'économie et l'envie de devenir riche.
Alors, la religion, on voit que Trump, candidat d'un parti le rappelait, a été entièrement pris en main par le Tea Party. Et on voit néanmoins cet homme, deux fois divorcé, patron de casino, menant une vie pour le moins vraiment pas exemplaire, en tout cas selon les canons de la bigoterie évangéliste. Exactement. Par exemple. Et néanmoins, voilà, ces gens ont voté pour lui.
Eh bien moi je pense que cette Amérique-là n'a pas dit son dernier mot et qu'effectivement il va se faire rattraper sur cette question-là. Parce qu'on a une vraie différence entre les deux candidats, entre Hillary Clinton, une méthodiste qui a des vraies valeurs et qui représente une Amérique traditionnelle.
Oui, mais qu'on dit, elle a menti, elle se croit toujours au-dessus des lois, peut-être. Elle se met toujours de travers,
elle a quand même une vie qui parle pour elle. Elle a quand même une vie qui parle pour elle et qui répond à cette Amérique conservatrice qui a besoin aussi d'être rassurée dans ses convictions. Il est vrai que Donald Trump n'est absolument pas dans ce schéma-là et qu'à un moment ou à un autre, ça va se voir.
Alors, dernière question à Donald Green, spécialiste des sondages, l'Université Columbia. On oublie toujours que dans le système américain, ce n'est pas une élection présidentielle au suffrage universel direct et qu'il y a donc un certain nombre d'États qu'on appelle les swing states qui vont peser plus que d'autres dans le résultat final le 8 novembre. Qu'en pensez-vous à ce stade, 5 mois avant Donald Green?
Hillary Clinton se porte bien dans des États comme la Virginie, État qui pourrait s'avérer décisif. En effet, la Virginie a voté 2 fois pour Obama. C'est un État tout à fait typique du changement démographique en faveur du Parti démocrate. La Floride, en revanche, c'est la base de la campagne de Donald Trump. Et là, on est vraiment au coude à coude. J'ai vu un sondage qui nous montre un écart de 1 point par rapport à Clinton. Donc, il reste à voir si les choses peuvent changer une fois que Clinton aura éliminé la menace sur son flanc gauche émanant des gens qui soutiennent Bernie Sanders. Mais à l'heure actuelle, d'une certaine façon, c'est très important pour Donald Trump la Floride. S'il remporte la Floride, il gagnera en crédibilité.
Pap Ndiaye, on arrive presque à la conclusion de cette émission. On voit quand même, au bout d'un an, un système politique extraordinairement malmené, aussi bien côté républicain, surtout côté républicain, mais aussi côté démocrate. Est-ce que dans les 5 mois qui viennent, et en fonction du style en particulier de Donald Trump, est-ce que ce système peut retrouver une sorte, non pas d'harmonie, mais de fonctionnement à peu près normal, ou est-ce qu'on est carrément passé en 2016 dans une autre phase de la politique?
Je ne crois pas qu'on soit passé dans une autre phase de la politique. On voit par exemple du côté du Parti républicain comment tous les caciques du parti s'alignent à peu près derrière Trump. Il y a quelques dissidents, mais en maugré bien entendu. McCain par exemple n'était pas évidemment un supporteur de Trump, mais dans l'ensemble tout le monde indique qu'il ou qu'elle va voter pour Trump. Donc,
oui, mais regardez, Paul Ryan, qui est l'espoir, oui, disons, du Parti républicain, le patron de la Chambre des représentants, il est catholique. Et donc, on voit maintenant fleurir, parce que tout le monde utilise les réseaux sociaux, etc., etc., en disant, mais Ryan, est-ce que tu n'as pas honte de soutenir Trump, et surtout après ses déclarations sur ce juge d'origine hispanique?
Ils sont sous pression, mais il y a un précédent dans la vie politique américaine qui fait peur à tout le monde, c'est la Convention démocrate de Chicago en 1968. Lorsque cette convention avait fini par accoucher d'un candidat qui n'était pas du tout prévu au départ, après les événements dramatiques que l'année 68 évidemment avait connu, y compris l'assassinat de Bobby Kennedy en juin, quelques mois auparavant, un candidat Humphreys qui est imposé par la direction du parti et qui explose en novembre contre Nixon. Donc ce que tout le monde craint, c'est ce genre de convention incontrôlable où tout explose, qui de fait ouvre l'élection au candidat adverse. Donc moi je pense, et depuis le début, que la logique des partis va l'emporter avec énormément de tiraillements, avec des dissidents dans chaque parti à coup sûr, mais que dans l'ensemble les machines vont se mettre en fonction derrière les candidats, parce que Trump, on ne l'aime peut-être pas chez les républicains, mais sa victoire, c'est aussi la possibilité pour le Parti républicain de revenir au pouvoir, avec ce que ça veut dire en termes de poste, avec ce que ça veut dire en termes d'influence dans le gouvernement fédéral. Il y a tout un ensemble de choses qui se dessinent évidemment derrière l'élection d'un président.
Oui, d'autant qu'on oublie aussi à chaque fois, vu de France et d'Europe, que le 8 novembre seront élus non seulement le président des États-Unis, mais en cascade. Sénateurs, représentants, juges, commissaires de police.
C'est cela. Donc il y a énormément de postes qui sont en jeu. Et puis il y a cet espoir, peut-être un peu illusoire, chez beaucoup de responsables républicains, que Trump pourra être canalisé finalement, hein, qu'il va finir par se calmer tôt ou tard. Il a son téléprompteur là depuis quelques jours. Il aura des conseillers et que ce personnage aussi baroque pourra peu ou prou finalement s'insérer dans les institutions américaines. Donc je crois que la logique des partis va finir par l'emporter.
Marc Lila, en guise de conclusion, vous partagez cette idée que la logique des partis, qu'on a vu malmenée côté démocrate par un Bernie Sanders qui, il faut le rappeler, refuse toujours de reconnaître la victoire pourtant éclatante d'Hillary Clinton en termes de nombre de délégués et de super-délégués, et victoire très importante notamment en Californie, vous pensez que côté démocrate aussi, les cicatrices vont se refermer et qu'on va revenir à un fonctionnement plutôt traditionnel?
Je ne sais pas, en fait, je ne pense pas à la convention de 68, mais plutôt de 72. À la convention de 72, le candidat était George McGovern. Et c'était le désastre complet. Hein? Et il y a Bernie Sanders, c'est le revenant de George McGovern.
Donc la tendance, disons, gauchiste du Parti démocrate.
Gauchiste et Thanatos. Hein, donc je crains le...
Thanatos, c'est-à-dire le, suicidaire.
Suicidaire. Par exemple, Bernie Sanders a mis plusieurs supporters sur le comité pour écrire la plateforme. La première chose qu'il voulait faire, c'est de mettre un planque contre Israël dans les territoires. Mmh. Et on ne gagne pas Florida en attaquant Israël. C'est donc, je le crains.
On voit donc deux partis divisés et maintenant, en fait, un duel qui est un duel entre deux marques. On a l'impression, il y a un tel marketing de la vie politique. Donc, il y a la marque Trump, et lui, c'est une marque qu'il développe depuis toujours. On la trouve sur des steaks à griller, sur du papier toilette, sur des très vilaines cravates qui sont d'ailleurs fabriquées au Mexique. Et puis, il y a la marque Clinton, qui est aussi une marque lourde à porter et qui n'est pas non plus sans tâche.
Oui, et Sanders, c'est le CGT.
Oui, mais Sanders, en principe, sera hors-jeu.
Oui. Donc, oui, dans l'élection, mais pas dans le parti. Donc, la plateforme est très importante. Donc, il faut la regarder de près.
Et le choix du vice-président, d'un côté comme de l'autre, est-ce que cela peut avoir une signification et une incidence forte sur le vote du 8 novembre?
Bien sûr. Et il faut qu'elle trouve quelqu'un qui peut attirer les gens dans le Sud-Ouest, à mon avis. C'est ça qui compte.
Le Sud-Ouest, qui est donc... le Sud-Ouest, pourquoi? Parce que c'est là où Trump a fait...
Parmi les Blancs, oui.
Les hommes blancs d'un certain âge qui craignent en plus leur propre déclin démographique par rapport aux minorités.
Oui, et qui se sentent entourés par les Hispaniques. Donc il y a une panique dans le Sud-Ouest, panique politique et sociale. Donc je n'ai pas de liste dans la poche, mais il faut échapper au corridor entre Boston et Washington pour le vice-président. Il faut aller à l'Ouest.
Aller à l'Ouest, jeune homme, jeune femme. Oui, et juste une dernière note, parce que dans une culture qui nous paraît à nous toujours aussi jeune, eh bien c'est une élection où les candidats sont particulièrement âgés, puisque Hillary Clinton aura 69 ans en novembre et Trump 70, Sanders on l'a dit 74, et donc il n'y a guère, je crois, que Ronald Reagan qui est arrivé à la Maison Blanche. Il avait un peu plus de 70 ans.
Oui.
Merci à tous pour vos éclairages. Merci à Pape Ndiaye, vous êtes professeur à Sciences Po Paris, directeur du département Histoire. Vous avez notamment publié chez Fayard en 2013 une histoire de Chicago avec Andrew Diamond. Merci à vous, Marc Lila, professeur en humanité à l'Université Columbia. On peut retrouver sur le site de la New York Review of Books, qui est, il faut le rappeler, la crème de la crème du journalisme littéraire américain, vos papiers. Merci à Jean-Éric Brana, politologue, maître de conférences à l'Université Paris II Assas. Vous avez notamment publié un ouvrage sur Hillary chez Erol en 2015 et un ouvrage sur l'incroyable Donald Trump aux éditions de Passy en 2016. Au téléphone depuis New York, Donald Green, professeur en sciences politiques à Columbia. Merci à Eric Scholl, à Luc-Jean Reynaud à la réalisation, à Pascal Bénard à la technique, à Meryl Moneghetti à la préparation, comme chaque semaine. Et comme chaque semaine, dans quelques instants, Dominique Rousset pour l'économie en question. Très bon week-end.